Il y a quelques mois, le conseiller en communication de Monsieur Raffarin s'est fait arrêter par la police pour avoir embarqué dans sa voiture une prostituée mineure. Dimanche dernier, Monsieur Raffarin passe chez Michel Drucker et sa femme nous chante « Prendre un enfant par la main ». Voilà. J'imagine que Monsieur Raffarin n'a pas changé de conseiller en communication.
Allô, bonjour, c'est Thérèse Marie du nord de la France. Je suis prof d'art plastique et à la CGT. Alors hier, le Conseil confédéral national de la CGT à Paris a voté en majorité pour le non à la Constitution européenne. Je dis ouf. Bernard Thibault s'est retrouvé en minorité en votant en faveur du oui. Voilà, l'abcès est enfin percé. Maryse Dumas a le culot de dire que les votes au sein des commissions départementales ou dans les unions locales ne reflètent pas la démocratie. Au contraire, tout s'est fait clairement. Ce qu'elle oublie, c'est que la plupart des syndiqués CGT sont aussi actifs dans des associations comme ATTAC, les comités de sans-papiers, le DAL, etc. Et que la misère et l'exclusion, ils la vivent et la voient chaque jour. Parmi eux, il y a des militants du PC, bien sûr, mais aussi du PS, de LO, des altermondialistes. On ne peut aujourd'hui être à la tête d'un syndicat de travailleurs qui a toujours lutté pour les droits et dire oui à la Constitution européenne telle qu'elle est rédigée actuellement. C'est complètement contradictoire, indécent même. De toute façon, je donne mon avis, hein. De toute façon, en ne donnant pas de consigne de vote, Bernard Thibault se plaçait évidemment du côté du oui. Et par cette décision, il avançait dans l'opacité une consigne de vote quand même. Cette manière de faire n'est pas non plus très démocratique. Voilà, alors je vous donne rendez-vous aux grandes manifs demain du 5 février. Bon allez, bisous à tous. Salut.
En ce qui concerne les 35 heures, comme je suis un petit instit, retraité, je me suis amusé à faire de l'arithmétique. Alors M. Dupont et M. Durand, ils ont la même qualification, payés 10 euros de l'heure. Alors chez M. Dupont, il y a eu accord de RTT, donc il travaille 35 heures, payé 39, ça fait 390 euros. M. Durand, il n'y a pas d'accord, donc lui, il va travailler plus pour gagner plus. Il va donc faire 4 heures sup. Il va donc être payé 35 heures à 10 euros 350, plus 4 heures majorées de 10% depuis déjà le premier assouplissement Fillon. Ça fait donc 11 euros, 4 fois 11, 44, c'est-à-dire qu'il va avoir 394 euros. Résumons la situation, il va bosser 4 heures de plus pour 4 euros, soit 1 euro de l'heure. En plus, il aura sans doute quelques frais supplémentaires de transport, de garde d'enfants, donc c'est quand même hachement intéressant. Deuxième petite chose sur la Rotopa, j'habite donc sur la côte, pas loin de la Baule et compagnie, et au cours des vœux, les élus UMP du secteur, toute honte bue, se sont félicités publiquement des retombées de la RTT sur le commerce local, puisque ça favorisait des longs week-ends, des jours de récup et tout ça. Donc le maire de la Baule allant même jusqu'à dire que profitons-en pourvu tant que ça dure. C'est quand même formidable. Donc samedi, moi je vais à la manif à Saint-Nazaire, donc je suis persuadé que je vais les y retrouver. Comme on organise au niveau de bas un départ groupé avec covoiturage, et bien je doute pas qu'ils vont venir avec nous. Salut.
Alors qui dit mémoire dit leçon, qui dit leçon dit erreur à ne pas refaire, faute à ne pas commettre encore une fois. Laval a reçu Hitler, Chirac reçoit Poutine. Expliquez-moi, où est la leçon ?
Une coordination de grévistes droit d'asile en danger poursuit depuis plus d'une semaine son mouvement de protestation. Nous, agents grévistes de la commission des recours des réfugiés, rejoints lundi par des avocats plaidants devant la commission, manifestons notre épuisement face aux conditions inadmissibles réservées au traitement de la demande d'asile en France. Comment répondre à l'objectif de déstockage de 100 000 dossiers dans un délai d'une année, alors notamment que les moyens d'instruction des dossiers sont quasi inexistants et que l'accueil des requérants et des auxiliaires de justice est inacceptable dans un pays qui se dit protecteur des droits de l'homme. Tous ensemble, nous réclamons des conditions de travail décentes et un accueil digne des demandeurs d'asile.
Cette année, le printemps social commence fin janvier. Les remous du tsunami clapotent plus tranquillement. La directive Bolkestein commence à démanger là où ça gratte. On a expliqué la constitution européenne, et voilà qu'on va se taper l'agonie du pape. Il n'y a pas de bon Dieu.
Oui, bonjour, c'est Phil du Centre. On ouvre la République ce matin, le pape Jean-Paul II va bien, le pauvre. Ensuite, une mère tue ses deux enfants, âgés de 4 et 5 mois. Vendée Globe, victoire de Ryu, et en plus Bob Marley aurait eu 60 ans. Le cannabis est-il plus dangereux qu'avant? Les impôts locaux, c'est l'emballement. Il adresse un doigt d'honneur aux policiers, ça il n'aime pas. Irak, Alaoui, tend la main aux sunnites, mais qu'a-t-il dans l'autre? Le suspect avoue le double meurtre de Pau, encore un locataire inutile de nos prisons psychiatriques. L'empoisonneur présumé d'animaux s'est suicidé. Et pour finir, à Paris, une conférence sur l'égalité des chances, il nous en reste pas beaucoup. Après cela, bonne journée, bonne soirée quand même. Je me marre, comme disait mon ami Coluche. À bientôt.
Et bien tiens, on va le retrouver sans doute, votre ami Coluche, au cours de cette heure de là-bas, si j'y suis, aujourd'hui, où l'on va s'intéresser au langage d'un homme que vous connaissez tous, il faut vraiment avoir vécu les 40 dernières années, ou même plus, au fond d'une grotte, au fond d'un bunker, pour ignorer qui il est et ce qu'il dit. Et on va s'intéresser à ce qu'il dit, mais dans son langage, dans ses phrases, dans ses mots eux-mêmes. Dans ses mots eux-mêmes, on va s'intéresser à 1 545 000 mots prononcés par cet homme-là au cours de 816 discours qu'il a prononcés à notre intention. C'était pour nous tout ça. Il était donc bien normal qu'on s'intéresse de très très près à ce qu'on a essayé, ce qu'il a essayé de nous mettre dans les oreilles et même au-delà depuis toutes ces années. C'est tout de suite après les messages que voici. Le numéro du répondeur de là-bas, si j'y suis, je vous le dis, mais vous le saviez déjà, c'est le 01 56 40 37 37.
Alors, est-ce que vous avez remarqué que ce qui a été voté cette nuit à l'Assemblée, eh bien, c'est tout simplement le retour à 4 semaines de congé. C'est-à-dire que la 5e semaine n'est plus obligatoire et ça dépend uniquement des entreprises où ça, comment ça sera voté. Alors j'espère que vous êtes content et que vous avez remarqué ça et que vous êtes fiers d'avoir voté Chirac pour Le Pen il y a longtemps qu'on s'en serait débarrassé. Allez, salut. C'est Marie-Claire de Bretagne.
J'appelle pour l'auditeur qui se préoccupait du sort des tziganes de France pendant la dernière guerre. Donc il existe un livre très intéressant et très bien documenté qui s'appelle « Un camp pour les tziganes et les autres » de Jacques Sigaud aux éditions Valada. Voilà, c'est un livre qui traite de l'internement des tziganes et des autres, bien sûr, dans le camp de Montreuil-Bellay, dans le Val-de-Loire. Et ben voilà, salut, à bientôt, au revoir.
Bon, je vous appelle de Valence. Je pense que partout en France, nul n'est censé ignorer que le 5 février, on est appelé quand même à descendre un minimum dans la rue. Bon, j'espère qu'il y aura du monde. Je crois plus vraiment à un sursaut. Je sais plus ce qu'il faut penser, mais au moins qu'on arrête de nous prendre pour des cons, et ceux qui arrêtent pas de gueuler à longueur de journée et à longueur d'année, bah c'est là qu'il faudra être le samedi 5, je crois que c'est à partir de 14h un peu partout en France. Allez, salut à tous et à samedi.
Mes chers compatriotes, naturellement, c'est Daniel Mermet pour une nouvelle émission de Là-bas si j'y suis. Flight number 2, arriving from New York. Cette indissociable mosaïque qu'est notre patrimoine culturel est en elle-même riche d'enseignements pour l'avenir. Et l'heure est plus que jamais à l'intégration dans la communauté nationale.
Jacques Chirac, Antenne 2, 11 février 1988.
Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. Il est certain que d'avoir des Espagnols, des Portugais et des Polonais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Si vous ajoutez le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français, sur le palier, il devient fou.
Jacques Chirac, déclaration à Orléans, 16 juin 1991.
Même les plus distraits, même les plus étourdis d'entre vous, même les plus ignorants ont reconnu la voix qui vient de nous parler et a reconnu dans la voix qui vient de nous parler deux moments de la pensée du propriétaire de cette voie. Il y aurait comme une sorte de contradiction. Cette contradiction n'est pas unique dans le discours de celui qu'on vient d'entendre. Oui, c'est notre président de notre République, Jacques Chirac lui-même. Cette contradiction n'est pas la seule. Dans son discours, on peut dire qu'elle constitue l'une des contradictions, mais il y en a comme ça énormément. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est la lecture d'un ouvrage absolument formidable qui s'intitule « Paroles de président » d'un certain Damon Mayafre. Il s'appelle comme ça, ce gars-là, Damon Mayafre. Et il s'est attaché, vous allez voir comment, à décrypter les paroles de notre président entre 1995 et 2003. Entre 1995 et 2003, Damon Mayafre s'est aperçu que le président avait prononcé 816 discours et prononçant 1 545 000 mots. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ces 1 545 000 mots, ce Damon Mayafre? Eh bien, il a mis tout ça dans un ordinateur, il a passé tout cela au crible d'un ordinateur. En fait, Damon Mayafre est un chercheur. Tout ce qu'il y a de sérieux, tout ce qu'il y a de scientifique, et il ressort de ce passage dans l'ordinateur, non seulement, évidemment, des tics verbaux, comme nous en avons tous. Celui qui vous cause, par exemple, doit en avoir pas mal. Mais beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça, beaucoup plus loin que ça, ce chercheur a trouvé des mots qui reviennent, des mots qui ne sont jamais prononcés. Entre ces mots les plus prononcés et des mots qui ne le sont jamais, eh bien, il se pourrait bien que l'idéologie d'un homme qui prétend ne pas en avoir apparaisse tout simplement. Les mots du président de la République, dont on peut résumer le discours à ses actes, des mots. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas si j'y suis.
Aujourd'hui,
je serai le président de tous les Français.
Naturellement.
Tous les Français.
Notamment.
Jacques Chirac, les Français, Radio France Féric.
Tous les Français.
Je me répète, mais enfin, il vaut mieux cela que de me contredire.
Mes chers compatriotes, je serai le président de tous les Français. De tous.
Écoutez la réponse de Jacques Chirac.
Je mesure la difficulté de la tâche qui nous attend.
Chirac a déclaré également que pour
tous les Français. Je veux un État. Je veux tous les Français.
Écoutez par exemple ce que disait la PPDA le 14 juillet.
Nous devons faire
un État.
Il faudra un genre vigoureux.
Jacques Chirac va signer bref, parce que c'est un fils d'homme. Il traverse la rue, il va dialoguer.
Impartial.
Naturellement.
Un État. Vigoureux. Un État,
impartial,
un État, exigeant,
raté le début de la discussion télévisée de chef de l'État, et bien là-bas.
Je serai le président de
la France. Damon Mayafre, on est à l'Université de Nice.
Oui, je suis chargé de recherche au CNRS dans un laboratoire qui s'appelle Basse Corpus et Langage. Alors il y a des branches qui travaillent sur la dialectologie, sur la diachronie linguistique, sur l'énonciation, sur le contact des langues.
Beaucoup de gens autour de plein d'ordinateurs dans un petit bureau.
Et oui, effectivement, il y a donc un laboratoire de linguistique qui travaille sur les corpus et qui essaie d'articuler une réflexion théorique donc de linguistique et un travail sur des données précises, en l'occurrence moi un corpus de textes politiques.
Ben dis donc, hein. Oh là 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 là. On est chez c'est le gars qui vient avec une blouse blanche, vous savez, pour les enzymes ou pour le dentifrice, pour me dire à quel point c'est sérieux et important. Mais c'est sérieux et c'est important. C'est Damon Mayafre, donc dialectologie, diachronie linguistique, énonciation, laboratoire basse corpus et langage. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, ce qu'on fait là, c'est qu'on va quand même s'amuser et puis on va apprendre beaucoup de choses en s'amusant avec ce chercheur dans ce laboratoire de linguistique. Je vous le disais, d'un mot Maillard a mis 1 545 000 mots prononcés par le président de la République dans son ordinateur en utilisant la technique de la logométrie. Vous savez, on le dit toujours, vous n'êtes pas assez objectif. Ça s'arrive assez souvent qu'on le dise à la base, vous n'êtes pas objectif. Il faut bien dire que, je l'ai assez répété, nous sommes des imparfaits de l'objectif, mais au moins chez nous c'est revendiqué. Et on sait ce que c'est que l'objectivité, c'est un leurre, et c'est un déguisement, et c'est un paravent de la manipulation. Nous sommes, nous autres journalistes, mais pas seulement, Bourdieu nous l'avait dit, des manipulateurs manipulés, c'est le cas aussi des chercheurs, et de tout un tas de gens sur cette planète aujourd'hui. Il y a ceux qui l'ignorent, il y a ceux qui font semblant de ne pas le savoir, etc. Mais il y a une technique. Lorsqu'on cherche quelque chose, c'est de poser d'abord une hypothèse, et c'est-à-dire une conclusion, on commence par la conclusion, puis après on va chercher tous les arguments, tous les éléments qui vont donner raison, qui vont conforter cette conclusion. C'est ce que l'on appelle, dans le langage scientifique de quelqu'un comme Maillard, c'est l'hypothético-déductif. Eh bien, lui, il a trouvé une autre technique, celle d'un objet. L'objet est objectif. Et l'objet, c'est l'ordinateur. Et donc, pour étudier la langue du président, les mots du président de la République, il a renversé la méthode.
L'objectif suprême de la logométrie, c'est de renverser la méthode hypothético-déductive qui domine dans les sciences humaines ou dans le journalisme politique. C'est-à-dire, vous avez une hypothèse de travail, je sais pas...
Je dois faire un papier pour montrer que Chirac change tout le temps d'avis.
Par exemple, vous allez chercher dans un discours les moyens de vérifier cette hypothèse de travail. Or, à l'analyse scientifique, en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a au moins deux dangers. D'abord, c'est de toujours trouver ce que l'on cherche.
Quitte à occulter plein de détails qu'on refuse de voir.
Et alors, ici, l'ordinateur n'a pas d'a priori, et donc traite avec une humeur égale, j'allais dire, l'ensemble du texte, et fait ressortir simplement ce qui est objectivement caractéristique de Chirac. Alors, si vous voulez, je vous montre... Une des productions de ce laboratoire, c'est ce logiciel qui s'appelle Hyperbase, qui a été élaboré par Étienne Brunet et qui est aujourd'hui un outil, je crois, très performant pour analyser le discours littéraire ou le discours politique, pour aller au plus près de sa composition linguistique, pour mettre à jour la rhétorique des présidents, éventuellement leur manipulation. Vous pouvez les vérifier. Alors là, vous voyez plusieurs boutons s'afficher.
Spécificité, graphique, liste, distribution, factorielle, arborée, phrase clé, corrélat,
etc. Et spécificité, par exemple, ce sont donc tous les mots sous forme de liste, je vous les montre ici, qui sont repérés comme discriminants, ici, de Jacques Chirac, par rapport à ses prédécesseurs.
Qu'est-ce que ça veut dire, discriminant ?
Discriminant, c'est-à-dire que c'est le mot qu'il surutilise le plus. Donc, vous voyez, le mot le plus discriminant de Jacques Chirac, c'est naturellement. Ici, on le voit s'afficher, depuis 1958. Il y a 1319 fois le mot naturellement. Or, Jacques Chirac monopolise 555 occurrences de ces 1319. Là, il y a un critère statistique qui marque combien cette surutilisation dans le discours de Chirac est anormale. Et à partir de là, à partir du moment où en aveugle, Hyperbase repère ce mot comme anormalement utilisé par Chirac, moi, il faut que je trouve une explication. Alors, évidemment, je suis un petit peu sur un chemin de crête entre donc la science et la citoyenneté, mais j'avoue que ça ne me dérange pas du tout. Et j'essaye donc de mettre toute la rigueur possible pour faire parler, au fond, le discours politique.
Nous devons réduire les dépenses de l'État. Ce qui ne veut pas dire naturellement réduire la situation des fonctionnaires ou les traitements des fonctionnaires.
Jacques Chirac, entretien télévisé, 26 octobre 1995.
Il y a en France, naturellement, une très bonne justice. Elle a des défauts. Et ces défauts, il faudra les corriger.
Jacques Chirac, entretien télévisé, 14 juillet 1998.
Alors voilà un premier résultat, le mot naturellement. Le mot le plus employé par le président de la République, c'est le mot naturellement. Combien de mots différents a-t-il employé dans la dans la période étudiée par notre chercheur Damon Mayafre. Eh bien, le président de la République, Jacques Chirac, a utilisé, en l'espace de 7 ans, 13 200 termes différents, c'est-à-dire moins que François Mitterrand, qui lui en a utilisé 15 200, mais plus que le général de Gaulle, qui lui, dans une période analogue de 7 ans, en utilisait 12 000. Sauf que les mots sont différents. Sauf que les mots sont différents, les plus utilisés et les moins utilisés, ou les pas utilisés du tout, parce qu'il y en a évidemment. C'est d'après ces quantités de retour de mots, cette fréquence, que il le dit bien d'ailleurs Damon Mayafre, hein, c'est il a d'un côté il est un scientifique et d'autre côté il est un citoyen, et c'est la rencontre entre une subjectivité citoyenne et la froideur, la géométrie du scientifique qu'il produit le sens qu'il nous propose et qu'il a proposé en priorité à Guy Ventier.
C'est-à-dire que vous pouvez mesurer, Damon Mayafre, vous pouvez mesurer avec cet outil comment la com a pris le dessus sur l'action politique.
Complètement. Le discours aujourd'hui, on le voit bien, le discours présidentiel n'a plus besoin d'être compris, il a simplement besoin d'être reconnu. Mais la substance même, le contenu, le dire du discours, lui, disparaît. Et alors, chez Jacques Chirac, c'est très significatif, dans la mesure où c'est un discours constamment de l'esquive. C'est un discours qui masque ses mobiles idéologiques. C'est un discours qui dit toujours « je ne fais pas d'idéologie, je ne fais pas de politique ». Il le dit, Jacques Chirac le dit, c'est au fond son idéologie, et surtout l'ordinateur n'est pas dupe. Et va retrouver l'idéologie, on va dire, conservatrice, libérale qu'il y a derrière. J'aime bien donner cet exemple. Les deux mots caractéristiques de Chirac, parmi tous les autres, c'est naturellement un et aujourd'hui. Vous l'avez d'ailleurs devant les yeux.
Ah voilà la liste. Ce
sont les mots, voilà, que l'ordinateur repère comme étant typiquement chiraquien. Vous voyez la liste, naturellement, aujourd'hui, notamment. Vous voyez le troisième.
Ça, c'est les trois mots que Chirac prouvait, comme ça, noir sur blanc, les trois mots que Jacques Chirac prononce le plus
par rapport aux autres présidents. Mais vous voyez la vacuité du discours, naturellement, aujourd'hui, notamment. Si je vous montre les mots caractéristiques de De Gaulle, vous allez avoir peuple, état, destin, régime, univers, nation. Hein, vous voyez la tonalité du discours qui a été complètement modifié.
Voyons par exemple Mitterrand sur le...
Alors Mitterrand, c'est très impressionnant. On peut regarder ici aussi. Le premier mot caractéristique de Mitterrand, c'est « je ». Donc c'est à partir de Mitterrand qu'il y a cette mise en scène de la personnalité du président dans ses discours. Donc « je », et puis regardez ensuite « j' » apostrophe et « m », et puis « moi ». Donc grosso modo, François Mitterrand utilise un « je » tous les 45 mots pendant 14 ans.
Naturellement. 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 Naturellement.
Surprenant. On aurait pu penser que le mot le plus fréquent, le moi, je, c'était De Gaulle. J'ai dans la légalité, etc. Eh ben non, c'est Mitterrand. C'est une approche, une technique, et pour tout dire, une science qui n'était pas possible avant l'ordinateur, avant de disposer de logiciels assez puissants pour broyer tout ça, broyer c'est beaucoup dire, mais utiliser tout ça et pondre de tels résultats. Il y a des langues de bois, mais il y a des bois différents, il y a des bois de tout un tas d'essences différentes et de sens différents. Et puis il y a des langues de sûre, on pourrait dire, et puis qui sont même plus des langues de sûre, qui sont des langues de poussière, naturellement.
Donc là, il suffit que je demande naturellement. Et il va me ressortir, et là c'est quand même intéressant, toutes les citations. Donc vous voyez,
1319 fois il apparaît ce mot-là.
Ce mot-là, oui, alors depuis 1958.
Nos présidents depuis 1958 nous l'ont dit 1319 fois.
Voilà. Donc vous voyez De Gaulle, et puis ensuite Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, et puis nous allons arriver à Jacques Chirac. Il y en a beaucoup, hein, puis voilà.
Ouais. Et voilà, Jacques Chirac.
Alors, à propos du naturellement, quand même, il y a l'usage rhétorique que Chirac en fait lorsqu'il se sert de ce mot pour articuler deux pensées contradictoires et faire apparaître cette contradiction comme tout au contraire comme une évidence. Lorsqu'il y a une contradiction, une difficulté dans le discours, eh bien, il va asséner un naturellement qui va lui permettre de dépasser cette contradiction ou donner l'impression de dépasser. Il affirme en gros, il faut réduire la fonction publique, ce qui ne veut pas dire naturellement réduire le nombre de fonctionnaires. Donc là, il a dit deux choses à peu près contradictoires ou très difficilement conciliables, mais il a donné à cette contradiction une apparence d'évidence absolue. Si, d'un point de vue linguistique, on pourrait aller un peu plus loin, s'il avait remplacé ce naturellement par un mais concessif, il faut réduire la fonction publique, mais nous ne devons pas réduire le nombre de fonctionnaires, il aurait pointé dans son langage la difficulté. Il aurait attiré l'attention sur un peu la contradiction, sur la nuance, sur la difficulté. Avec le naturellement, ça va de soi. Il n'y a plus de contradiction. L'air de rien, derrière ce mot, se dévoile l'idéologie, on va dire, conservatrice de Jacques Chirac. Parce que faire référence à la nature des choses versus la culture, c'est évidemment un luxe que peut se permettre simplement un président ou un homme politique qui est soucieux finalement de conserver l'ordre établi. Il y a une nature des choses qui s'impose.
C'est comme ça.
C'est comme ça, on ne peut pas le changer. Inutile de faire de la politique, inutile évidemment d'avoir une utopie politique. Il y a des choses qui sont évidentes et qui ne peuvent pas être discutées. Voilà. Et on le voit assez facilement dans les discours de Jacques Chirac. D'un point de vue rhétorique, c'est évidemment l'argument massue, puisque naturellement, clos toute discussion, il y a des choses qui sont, je le répète, retranchées de la discussion même, que l'on ne pourra pas changer.
Et je vois au hasard, vraiment la liste, naturellement, il faut du courage, naturellement, il faut du temps, naturellement, c'est impopulaire,
etc., etc. Alors, c'est très amusant, parce qu'on a beaucoup, les journalistes ont beaucoup insisté sur le fait que Chirac pouvait mentir ou dire le tout et son contraire. Dans le discours, c'est très difficile, quand on fait une étude exhaustive sur la période 95-2003, comme j'ai pu le faire, de mettre vraiment en contradiction. C'est beaucoup plus difficile qu'on pense, parce que les contradictions se nichent à l'intérieur d'une même phrase, d'un même paragraphe. C'est-à-dire que d'emblée, avec le plus grand naturel, il a dit le tout et son contraire. Et donc c'est très difficile de le prendre à défaut.
Il faut avoir des principes si l'on veut gouverner sainement une démocratie. La dissolution n'a jamais été faite dans notre Constitution pour la convenance du président de la République.
Jacques Chirac, entretien télévisé, 14 juillet 1996.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Jacques Chirac, allocution télévisée, 21 avril 1997.
Damon Mayaf, dans ce laboratoire donc du CNRS, je rappelle qu'on est à Nice, que vous travaillez sur la linguistique, la logométrie. En gros, c'est un outil que vous avez là pour mettre à jour les ficelles de la rhétorique politique.
Entre autres, alors ça n'a pas que cette vocation, Hyperbase n'a pas que cette vocation, mais effectivement, je m'en sers en partie pour ça, et d'autant plus volontiers, j'allais dire que je sais qu'aujourd'hui, le discours est très construit, et je ne pense pas qu'une telle récurrence, ici naturellement, là d'aujourd'hui, ailleurs de notamment, chez Mitterrand de jeu, etc., une telle récurrence soit le fait d'un hasard linguistique. Oui. C'est que derrière, il y a une stratégie, peut-être même des fois inconsciente, ça je l'exclus pas, mais il y a une volonté politico-linguistique.
Trois options possibles, en gros, si Chirac répète aussi souvent aujourd'hui, ou si Chirac répète aussi souvent naturellement, ou bien c'est calculé, ou bien c'est malgré lui, c'est sa psyché qui parle, ou bien il a peu de vocabulaire.
Oui, alors moi j'exclus la troisième hypothèse. Je pense pas que la pauvreté du discours de Jacques Chirac soit le fait d'un homme qui dispose de très peu de mots. Je pense que c'est une volonté délibérée pour rendre son discours accessible à tous. Un discours qui a une fonction de lien avec les Français, un discours qui reflète l'opinion, une fonction donc qu'on peut appeler fatigue, un peu à l'image du halo que vous avez au téléphone. Halo ne dit rien. Mais il établit un contact. Et ben finalement,
c'est une convention de langage.
C'est une convention de langage. Lorsque Jacques Chirac vient à la télévision, d'une certaine manière, il vous dit simplement « Allô, vous voyez, je suis là, vous pouvez vous reconnaître en moi, je suis le président de tous les Français », répète-t-il. Et voilà son...
Il fait un peu comme Hugo Chavez qui fait son émission hebdomadaire « Allô, Presidente ». On dit « Je suis là, c'est bien moi le pouvoir politique, j'incarne la présidence ».
Alors, sauf que je ne connais pas les textes de Hugo Chavez, mais au fond, oui, c'est un peu tragique là aussi pour notre démocratie, mais le discours politique n'a qu'une fonction iconique de reconnaissance. C'est un icône que l'on voit, qu'on place à la télévision, et les gens le reconnaissent plus que le comprennent.
Le demeurer, notamment aujourd'hui, mondialisation, naturellement démocratie, riche d'enseignements de l'avenir, insécurité, aujourd'hui, notamment en cas de prise d'otage, aujourd'hui, démocratie, jeune la République,
je me répète, mais enfin,
naturellement, notamment, la France,
il faudra contredire,
naturellement, bon fait, aujourd'hui, insécurité, il faudra.
10 ans de discours présidentiels, 10 ans de discours de Jacques Chirac, passé au crible de l'ordinateur d'un chercheur, Damon Mayafre. Alors, on a vu, voilà, les mots les plus utilisés sur ce 1 545 000 et quelques mots qui ont été passés dans cet ordinateur. Le premier, le plus utilisé par Jacques Chirac, c'est naturellement. Le deuxième, aujourd'hui. Le troisième, notamment, etc. Opposition entre nature et culture. C'est-à-dire que si, effectivement, comme beaucoup l'ont observé, on est en présence d'une, non pas d'un caméléon, mais vraiment d'une girouette. Une girouette, ça tourne sur un axe. Et il y a un axe à cette girouette. Il y a d'ailleurs un autre chercheur qui a sorti un bouquin formidable aussi, mais qui est un peu différent, c'est un angle un petit peu différent, c'est Yves Michaud, un livre qui s'appelle Chirac dans le texte, La parole et l'impuissance, où là aussi, il relève toutes les... C'est un travail aussi formidable, mais il relève toutes les contradictions, les retournements de veste selon les opportunités, les nécessités du marketing politique. Mais il y a un axe qui est celui d'un homme absolument conservateur, très très conservateur, comme Damon Mayafre le pense, si c'est l'une des conclusions qu'il nous propose. Alors l'un des mots qu'on retrouve très souvent aussi dans cette langue présidentielle, c'est le mot mondialisation.
Alors voyons les autres mots de la liste que vous avez.
C'est vraiment la facilité du logiciel, en quelques clics. Alors vous voyez, il y a naturellement, aujourd'hui notamment, il y a mondialisation aussi, qui serait un thème qui est peut-être le terme et le thème le plus intéressant de tout le discours de Jacques Chirac. Donc je vais vous montrer. Donc les 79. Et donc là,
voilà des bouts de discours de Chirac qui arrivent.
Alors vous voyez, c'est un terme très précoce chez Chirac. Il apparaît le 14 mars 1996. Pour vous donner une idée, c'est presque 2 ans avant la création d'Attaque.
Et c'était 2 ans avant Seattle.
Et 2 ans avant Seattle. Donc vous voyez, c'est très précoce.
Et la réponse que je donne et que les Européens doivent donner, ce n'est naturellement pas de contester la mondialisation qui est un fait inéluctable.
C'est de faire en sorte que l'on bénéficie des avantages importants qu'elle ne manquera pas d'apporter, mais également de refuser la fatalité qui impliquerait, sur le plan social, sous le terme de flexibilité ou d'autres mots de la nature. Donc vous voyez, là aussi, c'est la première, mais on pourrait continuer, c'est une pensée, je disais dialectique, enfin, qui manipule plusieurs idées, la crainte et l'espoir, c'est, en et gros, puis c'est le côté inéluctable aussi, évidemment.
C'est la mondialisation, non mais oui.
Complètement. Deuxième citation, ce qui veut dire que nous souhaitons accepter la mondialisation, mais en maîtriser les effets.
C'est-à-dire que la mondialisation, mot qu'il a utilisé 79 fois, déjà, vous pouvez nous dire que c'est le seul président à l'avoir prononcé, de la Ve République. et vous pouvez mesurer le contexte dans lequel il l'emploie.
Oh ben on va le faire en direct alors.
Ouais.
Donc il suffit d'aller demander le contexte du mot mondialisation. Donc les 79. Alors vous voyez, l'univers lexical du mot mondialisation va se dessiner comme ça instantanément et en toute rigueur. Et regardez, ce sont les trois mots qui sont statistiquement attirés par le mot vedette, donc ici mondialisation. Tout est dit, mondialisation attire en premier à lui maîtriser, le mot maîtriser.
Donc quand Chirac prononce le mot mondialisation, il y a une forte probabilité qu'il dise derrière qu'elle est maîtrisée.
Ou qu'elle doit être maîtrisée, tout à fait. L'autre mot c'est inéluctable, c'est-à-dire que là effectivement on est dans la phase du constat, c'est-à-dire qu'on a affaire à un phénomène qui est inéluctable, et donc à partir de ce moment-là, la seule chose qui convient d'essayer d'entreprendre, c'est de maîtriser ce phénomène et non pas de le combattre. Et puis le troisième mot qu'attire mondialisation, c'est danger. Donc vous voyez, c'est un terme pas altermondialiste mais très engagé, très à gauche, en soulignant avant tout le côté dangereux. Pour résumer les choses, ça se fait toujours en trois temps. Les dangers de la mondialisation sont regrettables, mais c'est un phénomène inéluctable, deuxième mot. Donc, il convient de la maîtriser. Alors, c'est beau comment l'ordinateur est capable de décortiquer le message chiracien. C'est pratiquement systématique, c'est toujours dans le cadre d'une démonstration dialectique. Je suis pour la mondialisation, mais je ne suis pas pour. Constamment, les dangers de la mondialisation, mais aussi ses vertus. Vous allez toujours trouver ce raisonnement dialectique, thèse-antithèse. C'est un peu cette façon d'avoir deux fers au feu. Alors, ceci étant dit, comme toujours chez Chirac, il faut distinguer chez lui les convictions profondes et puis l'opportunisme politique. Or, la mondialisation, on voit très bien que ça apparaît donc en 1996, au moment où il renonce au discours sur la fracture sociale. Donc, c'est un peu un thème de gauche, de substitution à celui de la fracture sociale. Ensuite, on le voit monter en puissance pendant la cohabitation et on pressent bien que c'est un moyen pour lui de doubler sur la gauche le gouvernement Jospin. Et encore aujourd'hui, lorsqu'il chevauche ce thème, on sent bien que c'est un moyen pour écraser la scène politique française et notamment ses concurrents Hollande ou Sarkozy qui, sur le terrain de la politique étrangère de façon générale ou de la mondialisation, ne peuvent pas rivaliser avec lui.
Et puis nous avons vu la mondialisation en marche. Un monde, c'est vrai, où les crises, notamment financières, se propagent très rapidement. Mais aussi et surtout, un monde de plus en plus ouvert, où tout circule, les hommes, les richesses, l'information, la connaissance. Un monde plein d'énergie, plein de vitalité, riche de fraternités à inventer.
Naturellement.
Notamment
aujourd'hui,
De Gaulle,
elle entend le demeurer.
Notamment
aujourd'hui.
Les mots en un, les mots du président, les mots de Jacques Chirac, vus à travers cette approche, le logiciel d'un ordinateur piloté par un chercheur qui tire ses conclusions.
Notamment la France.
Il faut le contredire.
Naturellement.
Je suis
favorable à un mandat de 7 ans non renouvelable.
Jacques Chirac, la presse de Limoges, 19 février 1981.
Il faut envisager, pour rapprocher dans le temps le pouvoir présidentiel de sa source populaire, une réduction du mandat à 5 ans.
Est-ce qu'on peut faire la même chose, par exemple, avec un autre terme qui a beaucoup servi dans le vocabulaire chiracien, qui est la sécurité ou l'insécurité?
Oui. Donc il suffit que je demande le mot insécurité. Voilà.
Voilà. Alors là, c'est au moins aussi parlant, c'est de voir à quel point Chirac a la palme, toute catégorie confondue, de l'usage du mot insécurité.
Et si vous ajoutez à ça que, en plus, ces occurrences, donc en l'occurrence 51, de Jacques Chirac sont concentrées à la période 2001-2002 durant la campagne électorale, vous touchez du doigt le martelage lexical.
Voilà, là on a la preuve du matraquage de la campagne qui avait été construite sur le thème de l'insécurité pour que les Français votent en conséquence.
Complètement. Alors que Jacques Chirac, je pourrais vous donner les chiffres, en 1997 ou 98, il n'utilise strictement jamais le mot insécurité. C'est quelque chose qui surgit au cours de la campagne électorale, on va dire. Et beaucoup plus étrange, on voit comment le thème retombe quasiment instantanément après le premier tour.
C'est-à-dire qu'en quelques mois, Chirac a prononcé plus de fois insécurité que De Gaulle, Pompidou, Giscard et Mitterrand en deux mandats réunis, et qu'après ça disparaît.
C'est un peu ça, très concrètement, très mathématiquement, vous voyez, insécurité est prononcée 67 fois sur l'ensemble du discours présidentiel sous la Ve République.
Depuis 1958, donc.
Depuis 1958, et Jacques Chirac monopolise 51 de ces 67 occurrences.
Alors, insécurité... Alors, bah ouais, c'est la violence, c'est 1997, vous voyez, c'est le mot qui est un des mots qui est le plus associé au thème de l'insécurité. C'est-à-dire, Jacques Chirac date l'insécurité en France à 1997.
Et 1997, comme par hasard, c'est le début de la cohabitation.
Ouais, j'y vois qu'une coïncidence. Ah, ouais, là, c'est passionnant parce qu'il y a un témoignage très objectif de l'ordinateur qui ne regarde même pas le sens des phrases ou des paragraphes, qui constate simplement que lorsque Chirac utilise insécurité, il utilise aussi 1997. Qu'il y a presque un message subliminal pour le citoyen qui fait que insécurité, 1997. Insécurité égale Lionel Jospin. C'est net, c'est une sortie machine qui me semble très parlante.
Voilà, ben oui, il y a un mot que vous n'entendez pas. Il y a un mot que vous n'entendez pas, que vous n'avez pas entendu. Jamais, jamais, dans la bouche du président. C'est pas possible, ça.
Je vous ai même pas montré le plus parlant du logiciel. C'est que vous pouvez faire des graphiques. Donc, si vous voulez ouvrier, vous allez avoir là, c'est cette courbe de fréquence. Ouais. Alors, bon, ouvrier est très peu utilisé. Donc, au total, sur l'ensemble de la Ve République, les présidents parlent que 26 fois d'ouvrier.
Ah.
Et Jacques Chirac utilise, je vous laisse lire,
0 fois.
C'est ça. C'est un mot qui est absent. Ça fait partie justement de ces mots qui sont bannis. Alors,
quand on parle de l'occultation de la classe ouvrière, pour le coup, on est en plein dedans, là.
Complètement, mais ça va même au-delà. C'est occultation de toute catégorie politique. Je vous parlais tout à l'heure de peuple. Je vous fais le graphique de peuple.
Ouais.
Vous allez voir, c'est très très parlant. C'est un mot, je me permets de vous le signaler, sur lequel s'appuie l'ensemble de notre Ve République. Si vous regardez la constitution de la Ve République, son préambule s'appuie constamment sur ce mot peuple qui est répété 5, 6, 10 fois de suite. Gouvernement par le peuple, pour le peuple. Or, c'est un mot qui tend à disparaître dans le discours politique. Donc, je vais vous montrer sa courbe. Voilà. Donc, si vous voulez, en gros, De Gaulle l'utilise 383 fois, alors que Jacques Chirac, 4 fois moins.
Chirac l'a prononcé 96 fois.
Et vous voyez surtout ce déclin progressif.
Voilà.
Alors, bien sûr, on continue à en parler de temps en temps, notamment au pluriel, les peuples d'Asie centrale. Mais vous voyez sur la courbe qui se dessine à l'écran, c'est en chute libre. Vraiment, je ne sais pas que je milite forcément pour une 6e République, mais lorsqu'on voit que notre 5e... repose sur cette notion, la souveraineté du peuple, et que aujourd'hui cette entité, ce mot, la référence, elle, a complètement disparu. Donc on est un peu sur du sable aujourd'hui, allez dire.
Le mois de l'année où le politicien dit le moins de conneries, c'est le mois de février parce qu'il n'y a que 28 jours. Et vous savez qui y a pire ? Les hommes politiques, je vais vous faire un aveu, ne sont pas bêtes. Vous rendez compte de la gravité ? Ils sont intelligents, c'est-à-dire tout ce qu'ils font, le font exprès. Ils y réfléchissent, ils y pensent. Parce que vous comprenez, si c'était des cons, ça irait tout seul, on dirait, bon, bah, c'est des cons. Non. Les présidents et les dirigeants des pays qui ont laissé crever l'Afrique, l'Amérique du Sud et bientôt les Indes, c'est des gens qui le font exprès. Et vous savez qu'il y a pire. Les journalistes ne croient pas les mensonges des hommes politiques, mais ils les répètent. C'est pire. Ça confirme. Ils ont beau faire ceux qui croient pas ce qu'ils disent, ils le répètent tous les jours à la télé, dans les journaux. Vous savez que les hommes politiques et les journalistes ne sont pas à vendre. Hein. D'ailleurs, on n'a pas dit combien.
Naturellement.
Naturellement.
Aujourd'hui,
de Gaulle.
Elle entend le demeurer,
notamment aujourd'hui.
Mondialisation, naturellement, démocratie riche. Dans
message post-mortem de Coluche, et évidemment, et naturellement, le président n'est pas seul. Le président n'est pas seul. À côté de lui, très souvent, il y a effectivement, Coluche l'avait bien remarqué, des journalistes. Et puis, de l'autre côté de l'écran, eh bien, il y a nous. Il y a nous, ces millions de Françaises et de Français et de compatriotes qui gobons tout ça passivement, de cette démocratie monarchique dont parle très bien Yves Michaud dans son bouquin Chirac dans le texte. Eh bien, cette démocratie monarchique, c'est nous, c'est notre pays, et nous vérifions bien là ce que nous avait dit il y a bien longtemps Mirabeau, l'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles.
Oui, il y avait un truc, c'était dissolution, je voulais voir si c'est possible.
Mais vous vous prenez au jeu de cet outil de recherche. On commence à poser des questions et c'est un outil qui aide à la recherche. En l'occurrence de dissolution. Alors, donc, vous voyez là, tous les présidents en parlent. Et alors là, c'est très amusant de regarder le Jacques Chirac, puisque c'est à ce propos que je dis que le naturellement lui permet de mentir avec aplomb. Puisque là, je veux dire, ce n'est pas de la diffamation, c'est un constat sur l'écran de mon ordinateur.
Dans ce laboratoire du CNRS.
Tout à fait. Où on voit comment il prend position très clairement le 14 juillet 1999 contre cette dissolution. Et ensuite, il propose à l'approbation des Français, et il a cette phrase, et là ça me permet de la citer textuellement pour justement ne pas déformer ses propos. Nous avons le 5 juin 2000, un entretien télévisé, cette phrase de Jacques Chirac.
Le problème est de savoir si l'on peut réduire la durée du mandat présidentiel, ce à quoi je n'ai naturellement jamais été hostile.
Donc bon, voilà, là on est vraiment aux confins de la manipulation verbale, puisque donc c'est un déni quelques mois après sa prise de position contre la dissolution. Mais ce que je veux montrer, moi, au fond, ça m'importe peu, là, les conséquences politiques. Ce que je veux montrer, c'est que toute cette phrase tient dans l'aplomb, dans la force que donne ce naturellement. Et évidemment, il faut quand même le préciser, c'est que cette force du naturellement ne peut fonctionner qu'avec une sorte de complicité journalistique, ici je pense que c'est Poivre d'Arvor,
qui prennent ce naturellement pour argent comptant.
Exactement, qui prennent pour argent comptant et qui se prennent garde de pas apporter la contradiction et démonter ce mécanisme.
Et donc, c'est-à-dire que voilà, c'est que d'accord, le scientifique que vous êtes fait ce bilan, fait cette statistique sur l'utilisation du langage chez Jacques Chirac, mais ce n'est possible, bien entendu, que parce qu'il a bien reçu ce discours, qu'on n'est pas relevé.
C'est exactement ça, et ça pose quand même des questions assez profondes. Dans la mesure où la télévision, à ce moment-là, joue un rôle, la Poivre d'Arvor, qui, au fond, est notre porte-parole lorsqu'il interroge Jacques Chirac, a un rôle considérable. Et c'est là où je pense que les dés sont pipés dans notre démocratie, puisque loin d'être le porte-parole de l'opinion publique, au fond, il est une sorte de faire-valoir du président qui s'exprime.
Damon Mayaf, pour résumer un peu, en conclusion, vous avez disséqué le discours du président et des autres, mais de celui-ci en l'occurrence. Qu'est-ce que le chercheur que vous êtes peut nous faire comme diagnostic sur notre cobaye ?
Comme conclusion, je pense qu'il y a un changement de nature du discours politique au fil de la Ve République, et j'allais dire au fil de la République depuis peut-être 1870. C'est-à-dire que le discours politique n'a plus du tout la même fonction qu'auparavant. Très clairement, lorsque un radical socialiste dans un banquet, lorsque un communiste dans sa cellule, lorsque etc. prenait la parole, c'était pour confronter des idées et pour véhiculer un programme politique ou une idéologie. Aujourd'hui, on dirait que le discours politique n'a plus cette vocation-là. C'est simplement un discours donc que j'appelle iconique, c'est-à-dire un discours qui ne cherche pas à être compris, mais simplement à être reconnu. C'est-à-dire que c'était une façon pour le président de venir à la télé et de tenir la tribune, qui plus est dans des mises en scène tout à fait ritualisées, le 14 juillet, le 31 décembre, etc. Et sous le fait des médias qui parlent leur format, la télévision par la force de l'image qui donne plus d'importance au symbole qu'au sens, par exemple, ou à la gestuelle qu'aux mots. Donc
Tout ça conspire à une réduction de notre parole politique, de la qualité de la parole politique. Or, on le sait, au moins depuis Périclès, toute démocratie fonctionne sur la qualité d'un message politique, sur des idéaux qui sont énoncés. Et aujourd'hui, c'est ces idéaux qui semblent disparaître, au fond, au profit d'une pensée unique qui ose même plus s'expliciter. Peut-être ça le plus inquiétant, c'est que non seulement on est dans une pensée unique libérale,
mais de la pensée du réalisme, de la nécessaire adaptation,
de la gestion, de la compétitivité, qui plus est, ne s'explicite plus. C'est ça le plus inquiétant. Ce n'est pas tant le contenu de la pensée qui peut inquiéter le citoyen, c'est le fait que ça ne s'explicite plus et que elle ne transparaît que sous la forme d'un bien évidemment, d'un naturellement, d'un on ne peut pas faire autre chose, ou il faudrait faire ceci, mais nous ne pouvons pas le faire, etc.
C'est-à-dire que ce qu'on mesure mathématiquement, c'est le poids de plus en plus important que prend l'évidence du sous-entendu.
Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, le discours des présidents de la République, que j'ai étudié vraiment par le menu, repose sur des présupposés idéologiques. Hein, parce que évidemment, Il y a de l'idéologie derrière. Mais ce sont que des présupposés, c'est-à-dire que ce n'est jamais explicité, donc ce n'est pas attaquable. Et donc on est enfermé dans cette pensée unique. Et c'est ce qui ressort, j'ai presque même l'impression que la vocation suprême du discours présidentiel est celle-ci, c'est-à-dire empêcher les gens de soumettre à débat l'essentiel. On discute sur le secondaire, sur les modalités d'action. C'est ça l'adverbe, par exemple. L'adverbe, c'est simplement la modalisation du discours sur comment on pourrait faire les choses, mais pas ni pourquoi et quelles sont les choses à faire réellement. Donc voilà, on est dans du présupposé idéologique, un discours de l'esquive, j'y reviens, un discours qui ne s'explicite pas. Or, il me semble qu'une conception noble de la politique est absolument l'inverse, c'est-à-dire à la fois un effacement des personnes, hein, au profit de la collectivité, au profit des partis, au profit des idées, et surtout une pensée qui s'explicite, pour être contredite, débattue.
Merci à Damon Mayafre. Son bouquin s'intitule « Parole de présidence ». C'est aux éditions Honoré Champion. Puis l'autre livre dont j'ai parlé, c'est Yves Michaud. « Chirac dans le texte, la parole et l'impuissance » aux éditions Stock. C'était un reportage de Guy Vanctil. Technique aujourd'hui, Clotilde Thomas et Pascal Baldassari. L'équipe de la base ici, c'est Antoine Chaot, Yann Chouquet, Pascal E, Pascal Yello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. On se retrouve lundi à 17h pour la base, j'y suis. Bonne fin de semaine à tous et merci aussi à... Non, c'était pas Jacques Chirac, la voix, c'était celle de Diane Daniel Herzog, les Guignols. Merci à tous, salut à lundi.
Aujourd'hui, mes chers compatriotes, je tenais à remercier Daniel Mermet pour sa participation, notamment à l'élaboration de ce projet, n'est-ce pas ? J'entends, à partir de 2007, supprimer son émission... Naturellement, dans un court instant, vous retrouverez Frédéric Bonneau dans Charivari.